France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est une étape cruciale, même si elle ne préjuge en rien du sort final du texte. Un petit comité de parlementaires tente depuis ce matin de s'entendre sur une version commune du budget de l'État. On tâchera de savoir dans quel état d'esprit députés et sénateurs envisagent ces négociations, sous la pression par ailleurs des grands patrons. On se rendra à Tel Aviv pour la troisième libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et puis avec notre invité, Johan Soufi, ancien chef du bureau juridique de l'UNRWA à Gaza, on s'intéressera aux conséquences de la fermeture aujourd'hui à Jérusalem du bureau de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Enfin, nous serons à Washington pour tâcher de comprendre comment un hélicoptère militaire et un avion de ligne ont pu entrer en collision hier soir, faisant des dizaines de morts. 7 députés et 7 sénateurs enfermés dans une salle du Palais Bourbon. Voilà pour le décor. Le scénario, lui, se résume d'une phrase. Trouver un compromis depuis ce matin, une commission mixte paritaire planche sur le projet de budget de l'État qui, en cas de consensus, sera examiné à l'Assemblée lundi, au Sénat mardi, avec sans doute à la clé, faute de majorité, le premier 49-3 de François Bayrou et donc probablement le vote d'une deuxième motion de censure déjà contre son gouvernement. En attendant, les débats du jour devraient, eux, normalement trouver une issue favorable. Pourquoi ? Parce que ce petit conclave entre députés et sénateurs est dominé par la coalition gouvernementale avec 8 parlementaires issus de ses rangs. Alors il existe évidemment quelques divergences entre la droite et les macronistes, rien qui pour autant devrait les empêcher d'accorder leur point de vue. Toute la difficulté en réalité, Stéphane Robert, sera surtout d'aboutir à une copie finale susceptible de résister à la censure de l'opposition.
Oui, et pour ça, il va sans doute falloir discuter longtemps et peut-être même très longtemps.
Je crois que ce sera la CMP la plus longue et la plus difficile de la Ve République.
Le député du camp présidentiel, Jean-René Cazeneuve, participe aux discussions.
Parce qu'il y a 248 articles, de très nombreux amendements, de très nombreuses demandes des uns et des autres.
Et la difficulté pour le camp présidentiel sera de convaincre leurs collègues de droite d'introduire un certain nombre de dispositions susceptibles d'amener les socialistes à ne pas censurer le gouvernement. Et tout ça va se faire sous la surveillance notamment du député PS Philippe Brun, membre de cette commission mixte paritaire.
Si le socle commun n'en fait qu'à sa tête, si le socle commun ne prend pas en compte les propositions de compromis que nous lui faisons, alors il expose le pays à de graves difficultés et à la censure.
Mais l'état d'esprit de tous les députés ce matin, avant le début des négociations, semblait plutôt pencher vers la recherche de compromis pour aboutir à un texte acceptable par tout le monde. C'est en tout cas ce qu'indiquait sur Public Sénat le député du camp présidentiel, Sylvain Maillard.
Nous, nos positions, elle est très simple. Nous voulons un budget. Nous sommes opposés aux propositions que font le Parti Socialiste. Mais il nous faut un budget. Et donc, je pense qu'à un moment, il y a une part de responsabilité qui doit être la nôtre. Honnêtement, qui n'est pas toujours satisfaisante. Mais on a perdu les élections et donc il faut faire des concessions et des concessions qui font mal parfois.
Malgré un état d'esprit favorable à la recherche d'une solution, il y aura des points durs dans la négociation. La droite sénatoriale, notamment très présente dans cette commission mixte paritaire, a prévenu qu'elle n'était pas prête à toutes les concessions.
Et c'est donc en pleine crise budgétaire que l'INSEE a publié ce matin les chiffres de la croissance 2024, attendus en très net ralentissement. Même si la consommation des ménages a progressé, portée par la forte baisse de l'inflation, l'économie s'est bel et bien affaiblie au quatrième trimestre. Et puis surtout, à l'instar des mauvais chiffres du chômage publiés aussi cette semaine, où pas une tranche d'âge, pas même une seule catégorie n'est épargnée, il semble difficile là encore de trouver ne serait-ce qu'un seul poste du PIB qui donne des raisons d'être optimiste en ce début de nouvelle année.
Enfin, c'est également dans ce contexte, toujours et encore, que de plus en plus de patrons de grandes sociétés ne cachent plus leur courroux.
Oui, dans une offensive médiatique parfaitement assumée, les voilà qui dénoncent l'augmentation prévue des impôts sur les entreprises françaises. Après que le patron du numéro 1 mondial du luxe, Bernard Arnault, de retour des États-Unis, a dénoncé une taxe sur le Made in France qui pousse à la délocalisation. Hier, c'était au tour du patron du MEDEF, Patrick Martin, de se faire le porte-parole de cette colère chez ses adhérents face aux choix économiques du gouvernement. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
On comprend bien la logique qui consiste à vouloir gagner toujours plus d'argent. Reste la question de savoir quelle place les grandes entreprises entendent, mais malgré tout occupées pour participer au bon fonctionnement de la société. En l'occurrence, cette surtaxe d'impôt sur les sociétés qui ne s'appliquerait que pour une année rapporterait 8 milliards d'euros, ce qui en réalité, Marie, reste reste inférieure aux baisses d'impôts consenties aux entreprises depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Oui, or ces baisses d'impôts sont pérennes quand la surtaxe qui concerne les 440 plus grandes entreprises françaises ne l'est pas. La plus importante, c'est la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés. 33,3% quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, on est à 25%. 8 points de moins, c'est loin d'être une paille. S'ajoute à cela la baisse engagée après le Covid pour relancer le Made in France de tout un tas d'impôts très disparates qu'on a appelés impôts de production. 10 milliards d'euros de moins en 2021, auxquels on a ajouté 10 milliards en 2022. Là encore, ce sont des baisses d'impôts pérennes. Alors pour que la photo soit complète, rappelons que dernièrement, l'État a financé deux plans colossaux qui ont bénéficié aussi aux entreprises, dont les plus grandes. France Relance, 100 milliards. France 2030, 54 milliards. Ajoutons aussi les aides publiques, dont il serait intéressant de savoir combien vont aux plus grandes entreprises, mais faute de données officielles, on ne le sait pas. Alors certes, si on compare aux autres pays de l'OCDE, la pression fiscale en France est toujours plus élevée qu'ailleurs. Mais c'est aussi parce que sous la pression des multinationales, tous les États, Union européenne en tête, ont réduit leur fiscalité pour les attirer ou les retenir. Dans les années 80, la moyenne mondiale du taux d'impôt sur les sociétés était autour de 40%. On est aujourd'hui à 25%. Alors on pensait avoir inversé cette course vers le bas avec l'accord à l'OCDE sur une imposition minimale des multinationales, mais Donald Trump ne veut plus l'appliquer et il promet de réduire le taux américain à 15%. Le vent tourne, les grandes entreprises françaises l'ont senti et elles reprennent donc un refrain que la politique de l'offre d'Emmanuel Macron avait un temps fait taire. Il y a et il y aura toujours moins taxé ailleurs.
Merci Marie Viennot.
12h36 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Ce matin, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a débuté la troisième journée d'échange d'otages israéliens retenus dans la bande de Gaza contre des prisonniers palestiniens. William Delisseux, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de la place des otages à Tel Aviv. Ces libérations se font au compte-gouttes dans deux cérémonies distinctes, l'une dans le nord de la bande de Gaza et l'autre au sud. Et les Israéliens que vous avez rencontrés, William, se disent d'ailleurs choqués de la façon dont deux captifs viennent d'être relâchés.
Oui, ici, quelques centaines d'Israéliens suivent effectivement la progression des convois de la Croix-Rouge sur l'écran géant qui diffuse les images de ce sud de la bande de Gaza dévastée par la guerre. La joie des spectateurs est comme contenue. Certains sur cette place des otages sont même en pleurs, car il a été très difficile de distinguer dans la foule gazaoui les otages. A été vu Arbal Yehoud paniqué, bousculé, encerclé par les combattants du djihad islamique. Des images choquantes réagit à l'instant Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Pas d'image du troisième otage Gadi Moshe Moses, 80 ans, pris en charge par la Croix-Rouge. Yoni est venu suivre ses libérations.
Je suis très partagé dans les sentiments que je peux avoir. On est donc très heureux qu'ils reviennent. Mais regardez là-bas la foule, comme elle est brutale avec eux. Les voir comme ça, c'est terrible, jusqu'à leur retour dans les bras de leur famille et de leurs amis. Je ne serai pas tranquille tant qu'ils ne seront pas de retour à la maison.
La télévision israélienne a coupé les images de la bande de Gaza pour diffuser celle d'Agam Berger, la première otage libérée ce matin. À l'heure seulement, les applaudissements sont revenus, et ceux d'Hélène.
C'était la dernière des cinq militaires. Les quatre sont revenus à la maison. Il n'y avait aucune raison de la laisser ici toute seule. C'est ce que les terroristes étaient prêts à faire. C'est leur façon de faire. Ils nous combattent physiquement et psychologiquement, surtout maintenant.
Ces trois captifs israéliens sont libérés en échange de la libération de 110 prisonniers palestiniens, dont la majorité d'entre eux pourra regagner la Cisjordanie dans la journée après des années de détention. D'autres seront exilés directement à Gaza ou en Égypte.
Merci William Delisseux, en direct de Tel Aviv avec Marc Garavanès pour les moyens techniques. Alors voilà pour les suites du cessez-le-feu devant mettre un terme à 15 mois d'une guerre dévastatrice. Pour le reste, et signe que la situation reste encore extrêmement fragile, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, véritable bouée de sauvetage pour des millions de personnes, un acteur sinon irremplaçable, indispensable dans la catastrophe humanitaire à Gaza, doit fermer son bureau aujourd'hui même à Jérusalem, sur ordre de l'État hébreu qui soupçonne la dite agence de servir de couverture au Hamas. Alors sa disparition du paysage israélien après plus de 75 ans d'existence et malgré les réserves d'une partie de la communauté internationale est-elle susceptible de compromettre son rôle en tant que principal fournisseur de services publics, de base, éducation, santé, services sociaux dans les territoires palestiniens? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Joanne Soufi, avocat spécialisé en droit pénal international et ancien chef du bureau juridique de l'UNRWA à Gaza. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Jusqu'à quel point cette décision donc d'Israël est-elle potentiellement désastreuse pour la population civile palestinienne?
Oui, c'est une décision catastrophique parce que vous l'avez dit, UNRWA est plus que la bouée de sauvetage. Elle est la ligne de vie de millions de réfugiés palestiniens. C'est elle qui a apporté, qui apporte toujours l'aide humanitaire, c'est-à-dire la nourriture, l'éducation, la santé à toutes ces personnes qui en sont privées autrement. Et donc aujourd'hui, l'absence de coopération, voire les entraves israéliennes vis-à-vis de cette agence, eh bien, la prive de la capacité d'opérer dans les territoires sous occupation.
Cette destruction forcée d'une agence des Nations Unies, c'est du jamais vu. En interdisant le travail de l'UNRWA, Israël s'oppose pratiquement à toutes les instances des Nations Unies. L'Assemblée Générale qui a créé l'UNRWA en 49, mais aussi la Cour Internationale de Justice, la Charte de l'ONU. Et puis, faut-il le rappeler, Jérusalem-Est occupe une situation singulière puisque cette partie de la ville occupée, annexée par l'État hébreu, n'est pas communément reconnue comme un territoire israélien. Or, si l'on s'en réfère à la législation votée par la Knesset en octobre dernier, cette décision est censée s'appliquer uniquement au territoire souverain d'Israël. Est-ce que cette interdiction est contraire au droit international?
Oui, vous l'avez dit, c'est même pas que Israël se met au banc d'une certaine manière de la communauté internationale, non seulement en violant des décisions des cours internationales de justice, par exemple, qui reconnaît que Jérusalem et Est fait partie intégrante des territoires palestiniens, mais de manière plus générale, la décision israélienne viole d'abord le droit de l'ONU, qui est protégé par des privilèges et des immunités, viole ensuite le droit international humanitaire, qui exige de la puissance occupante, et donc à la fois en Cisjordanie comme à Gaza, qu'elle s'assure qu'il n'y ait aucune entrave à l'aide humanitaire, et d'ailleurs qu'elle-même donne cette aide humanitaire. Et enfin, elle viole plusieurs ordonnances de la Cour internationale de justice qui avaient reconnu le risque de génocide et qui donc exigeaient d'Israël, pour prévenir ce génocide, eh bien, qu'elle cesse toute entrave à l'aide humanitaire et notamment à UNRWA. Et c'est exactement le contraire qu'Israël fait aujourd'hui.
Est-ce que cette fermeture à Jérusalem pourrait renforcer l'emprise du Hamas dans la bande de Gaza?
Alors aujourd'hui, on ne parle pas encore de fermeture, on parle simplement de la fermeture du bureau de Jérusalem, mais UNRWA continuera d'opérer à la fois à Gaza et en Cisjordanie, mais sans la coordination israélienne, c'est certain que ces activités sont totalement entravées. Mais vous savez, pour répondre à votre question, UNRWA a toujours été une source de stabilité dans la région. Et d'ailleurs, Israël le savait, et c'est pas un hasard si les principaux donateurs de l'agence étaient les États-Unis et l'Allemagne, de soutien d'Israël. Et donc, effectivement, aujourd'hui, si vous avez une population qui est déjà à bout de souffle, qui est martyrisée et qui n'a plus l'aide humanitaire nécessaire à sa survie, eh bien, il y a un risque que dans ce vide, eh bien, d'autres acteurs, y compris le Hamas, eh bien, répondent à ses besoins, et ce qui sera fortement déstabilisant pour la région dans son ensemble et pour Gaza en particulier.
Une dernière question en quelques mots, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est refusé à dessiner un plan B qui consisterait à permettre donc à d'autres agences onusiennes d'assumer en partie les tâches dévolues à l'UNRWA. Pour quelle raison?
Parce que d'abord, l'UNRWA a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies, par une résolution, et donc c'est seulement cet organe des Nations Unies qui peut mettre fin à son mandat. Et ensuite, parce que, en réalité, vous savez, l'UNRWA a été créée en 1949, après la Nakba, et donc son sort est lié intimement à la question des réfugiés palestiniens. Et donc, seule une décision politique favorable, juste et équitable, eh bien, sera en mesure de mettre fin au mandat de UNRWA. En gros, qu'un État palestinien remplissent les services publics qui, comme tout État, doit le faire vis-à-vis de sa population.
C'est bien compris. Merci. Joanne Soufi, donc ancien chef du bureau juridique de l'UNRWA à Gaza, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
La Syrie dispose désormais d'un président intérimaire.
Oui, son nom, Ahmad al-Sharaa, chef de la coalition islamiste qui a renversé Bachar al-Assad. Dans le même temps, tous les groupes armés et autres organes politiques, civils qui se réclamaient de la révolution ont été dissous, de même que l'ancien parlement. La constitution a par ailleurs été gelée. Enfin, le nouveau président a été chargé hier de former un conseil législatif intérimaire pour la période de transition, mais dont la durée n'a pas été précisée. Alors, est-ce là le chemin d'une lente transition vers la démocratie? Pour l'heure, Marie-Pierre Véraud, on a surtout du mal à savoir dans quelle direction politique la nouvelle Syrie entend s'engager.
Ahmad al-Sharaa dirigeait déjà de facto le pays depuis le 8 décembre. La formalisation de son pouvoir lui permettra de représenter la Syrie dans les instances internationales, mais elle ne modifie pas la structure du pouvoir. Ahmad al-Sharaa se voit chargé de nommer un conseil législatif qui rédigera une nouvelle constitution préalable à la tenue d'élections. Le hic, c'est que la durée de cette période de transition durant laquelle il sera l'homme fort du pays n'est pas précisée. Cela laisse craindre que cette concentration des pouvoirs s'éternise, ce qui en Syrie rappelle de très mauvais souvenirs. Certes, la composition de ce futur conseil législatif, son degré de pluralité, permettront sans doute d'y voir plus clair sur les intentions du président syrien, mais de conférences du dialogue, censées permettre à toutes les communautés de réfléchir à l'avenir de leur pays, il n'a pas été question hier soir. Et d'autres interrogations demeurent dans une Syrie toujours en proie au chaos sécuritaire. La dissolution des groupes armés, par exemple, censée se fondre dans la nouvelle armée nationale. L'annonce ne concerne que les groupes qui ont, je cite, « participé à la libération ». Cela exclut les forces kurdes. Or, la solution qui sera trouvée avec la partie kurde constitue l'un des points les plus épineux pour l'avenir du pays. Ahmad al-Sharaa a reconnu que la responsabilité des vainqueurs est immense. Il a fixé ses priorités, dont la préservation de la paix civile et le développement de l'économie. Il doit s'adresser dans la soirée au peuple syrien, une allocution très attendue. Tous espèrent alors en savoir plus sur la direction qu'il entend donner au pays.
Le président congolais est enfin sorti hier soir d'un silence assourdissant pour sa toute première prise de parole publique depuis l'offensive éclair qui a conduit le groupe armé anti-gouvernemental M23 à prendre le contrôle de Goma, aidé en cela par des troupes rwandaises. Félix Tshisekedi a mis en garde contre un risque d'escalade régionale. Dans une allocution retransmise à la télévision, il a également assuré qu'une riposte vigoureuse et coordonnée était en cours dans l'est du pays. Riposte dont on a du mal toutefois à imaginer comment elle pourrait s'organiser compte tenu de la sévère débâcle de son armée, sans compter les problèmes de corruption et de mauvaise gestion qui ont singulièrement affaibli le chef de l'État sur le plan intérieur.
Près d'une vingtaine de corps ont été retrouvés ce matin après la collision au-dessus de Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire.
Oui, 18 corps ont été repêchés dans les eaux glaciales du fleuve Potomac qui borde la capitale. Les autorités craignent des dizaines de morts, probablement l'ensemble des 64 passagers et membres d'équipage de l'avion et les 3 soldats de l'hélicoptère. Isabelle Labéry, bonjour. Isabelle Labéry, est-ce que vous nous entendez?
Bonjour.
Oui. Il s'agit là de l'une des pires catastrophes aériennes survenues aux États-Unis depuis 10 ans. Le premier accident mortel d'avion commercial en près de 16 ans. Et cette collision, résultat donc a priori d'une défaillance de sécurité, soulève, Isabelle, beaucoup de questions.
Oui, comment un pilote d'hélicoptère militaire a-t-il pu percuter un avion de ligne en phase d'atterrissage, bien positionné dans sa trajectoire, éclairé par ses phares? Ces questions, Donald Trump les a posées très tôt la nuit dernière sur son réseau Truth Social. Pourquoi, interroge encore le président américain, l'hélicoptère n'est-il pas monté ou descendu? Pourquoi la tour de contrôle ne lui a-t-elle pas dit ce qu'il devait faire, au lieu de simplement lui demander s'il avait vu le vol commercial? Selon les enregistrements publiés par les médias américains, américain. Le pilote du Black Hawk répond qu'il a bien repéré l'appareil, qu'il va tenter de sortir de sa trajectoire. Mais le bombardier d'American Airlines vole à plus de 230 km/h. La collision a lieu moins de 30 secondes plus tard. Il y a 2 ans, une enquête du New York Times avait révélé que plusieurs fois par semaine, des catastrophes étaient évitées de justesse dans le ciel ou sur les pistes des aéroports américains, le plus souvent en raison d'une erreur humaine. La même année, les effectifs des contrôleurs ont été renforcés, mais le manque de personnel persiste. Et à l'aéroport Ronald Reagan dévolu aux vols régionaux, il y a eu l'an dernier au moins 8 quasi-collisions, selon l'administration fédérale de l'aviation. Cet aéroport est d'ailleurs considéré comme l'un des plus difficiles du pays en raison de ses pistes courtes et de son encombrement. S'y croisent en permanence des appareils commerciaux et militaires, mais aussi les avions présidentiels. Aujourd'hui, 869 vols auraient dû soit y arriver, soit en partir.
Merci Isabelle Labéry. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour des éclaircies en Bretagne. Des averses persisteront en revanche dans l'extrême nord et puis surtout de fortes pluies orageuses s'abattront sur le sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.